On est très content de recevoir Isabelle Pasquet, qu'on connaît bien, hein, qui est un membre actif de la Bibliothèque des Amis de l'Instruction et qui, on sait qu'elle travaille depuis un certain temps dans ses murs pour nous faire la conférence qu'elle nous a préparée sur les autrices qui sont cachées dans ces rayonnages. Je te laisse la parole.
D'accord, bah merci. Donc je vais partager avec vous ce projet mené depuis plus de deux ans, établir le catalogue des autrices présentes dans le fonds de la Bibliothèque des Amis de l'Instruction, donc cette bibliothèque fondée par des ouvriers en 1861, celle où nous sommes donc. Pour effectuer cette recherche par genre, j'ai commencé par l'élément le plus évident, le prénom. Hein. Ce sont les Marguerite et les Marie qui m'ont donné le plus d'autrices, hein, de noms d'autrices. Ensuite, j'ai consulté les anthologies, différentes études du début du XXe siècle et plus récentes, comme Femmes et littérature, sous la direction de Martine Red, qui est apparue en 2020. J'ai aussi consulté les ouvrages d'Hélène Constant sur le roman sentimental, de celle qu'elle a qualifiée d'ouvrière des lettres. Ils m'ont permis de retrouver nombre d'autrices qui se cachaient sous un pseudonyme masculin. Hein, puisqu'elles sont particulièrement nombreuses dans ce domaine. Et pour finir, il y a eu ces hasards heureux de la recherche jusqu'à ces derniers jours, hein, où j'ai encore retrouvé un nom d'autrice. Alors avant de vous présenter les autrices du premier catalogue, nous allons nous demander si les femmes ont pu participer à l'élaboration de ce catalogue de 1862. Pour répondre à cette question, je vais m'appuyer sur le travail d'Agnès Sandras, qui est conservatrice à la Bibliothèque nationale et qui fut présidente de la BAI plusieurs années. Jean-Baptiste Girard, donc l'ouvrier lithographe à l'initiative de la BAI, avait côtoyé l'institutrice Jeanne de Rouen, grande figure des actions de 1848-1852. Mais Jeanne de Rouen, à la suite de son emprisonnement, s'est exilée en Angleterre. Elle n'a donc pas pu participer au projet de la BAI, ni a fortiori à l'élaboration du premier catalogue. Selon Agnès Sandras, ces événements de 48-52 avaient attisé la méfiance envers les femmes, tant il est vrai qu'effectivement, aucune femme ne se trouve parmi les membres du conseil d'administration de la BAI à sa création en 1861. Alors je rappelle juste cette date symbolique de 1861, c'est l'année où Julie Daubier obtient le premier baccalauréat, avec difficulté, hein, en tout cas pour les autorisations. Elle sera licenciée en lettres en 1871, les lois Jules Ferry et Canis C datent de 1881, et l'ouverture progressive des universités aux femmes se fera jusqu'en 1922. Donc on est vraiment au tout début de cet accès à l'éducation des femmes. Et c'est assez exceptionnel, effectivement, que cette bibliothèque ait pensé tout de suite à accueillir les femmes. Alors, autre question que l'on peut légitimement se poser, y avait-il des lectrices, du coup, dès le début de la création de la BAI ? Sachant que les autres bibliothèques, donc notamment universitaires, leur étaient interdites. Sans approfondir, car Louise Houdin, qui est là, fait une recherche actuellement sur les lecteurs-lectrices qu'elle présentera l'année prochaine, je relèverai simplement que parmi les 559 lecteurs inscrits la première année, seulement 39 femmes étaient inscrites en leur nom propre. Cependant, les femmes bénéficiaient de l'inscription de leur mari et les filles de leur père. Par exemple, la fille de Girard, qui a 15 ans, était inscrite. Pour encourager les femmes à s'inscrire à titre individuel, leur adhésion coûtait la moitié de celle des hommes. Hein, donc, 50 centimes au lieu de 1 franc. C'était l'adhésion et après, il y avait une cotisation annuelle de 20 centimes au lieu de 40 centimes. Parmi les premières lectrices, il est possible que certaines aient fait des suggestions pour élaborer ce premier catalogue, car il y avait parmi elles une maîtresse d'institution, deux institutrices, une libraire, une étudiante, des parents d'administrateurs, mais aussi les plus concernées, bien sûr, qui n'avaient pas de livres chez elles, une couturière, concierge, blanchisseuse. Donc ici, nous avons le catalogue de 1862, donc qui a été élaboré à la création pendant la première année. Nous avons 13 autrices qui sont donc entrées au catalogue, 6 romancières, 2 autrices pour la jeunesse, 1 poétesse, 2 essayistes, 3 autrices de voyage. Elles ont été éditées pour la plupart entre 1840 et 1860. Donc bien sûr, donc George Sand avec 3 romans du cycle champêtre qui datent de 1840-50. Zulma Caro, on se souvient d'elle aujourd'hui parce qu'elle c'était l'amie de la sœur de Balzac et aussi l'amie de Balzac. Elle écrivait surtout des livres pour enfants et ici ce sont 3 livres d'apprentissage de la lecture. Nous avons également donc Clémence Robert, romancière prolifique qui écrivait des romans historiques très documentés et bien construits. Donc là, Le Confesseur de la Reine, c'est raconte la vie de Saint-Vincent de Paul. Émilie Carlen, c'est une Suédoise avec le roman Deux jeunes femmes ou un an de mariage, qui est un roman d'édification qui défend le mariage. Donc. Elisabeth Gaskell, c'est une Anglaise avec 2 romans. Russe qui raconte l'histoire d'une orpheline séduite par un aristocrate, et Cranford, que l'on trouve en France sous le titre de Les Dames de Cranford, ou Crawford d'ailleurs. C'est une chronique pleine d'humour d'une petite ville où les femmes sont obsédées par les conventions. Il y en a une qui dit « Il est bien agréable de dîner avec un célibataire. J'espère seulement que c'est convenable. Tant de choses agréables ne le sont pas. » Donc c'est tout dans cet esprit-là. C'est un livre qui est connu, qu'on trouve dans les librairies aujourd'hui. Donc nous avons aussi l'américaine Harriet Beecher Stowe, bien évidemment avec sa case de l'oncle Tom, qui était un succès monstre donc, à cette époque-là. Il est sorti en 1852 aux États-Unis et en France, il est traduit donc en 1853, donc très très rapidement. Et il y aura plusieurs éditions dans le fond de la BAI. Et puis l'américaine Miss Cumming, avec le roman « L'allumeur des réverbères », qui profite de l'engouement du public pour la littérature américaine qu'après ce grand succès de la case de l'oncle Tom. Il y aura donc 3 titres de cette autrice dans le catalogue. Enfin, un essai de Germaine de Staël, enfin les son grand essai de l'Allemagne, et en poésie, donc Amable Tastu. C'était une poétesse romantique donc de l'époque. Elle est plus jeune que Marceline Desbordes-Valmore. On n'en trouvera pas de recueil de Marceline Desbordes-Valmore. Curieusement, il ne sera pas présente avec ses poésies. Donc, dans ce recueil qui date de 1835, elle publie ses propres poésies ainsi que celles de 2 autrices anglaises contemporaines qu'elle a traduites et également un poème de l'italienne Vittoria Colonna, grande amie de Michel-Ange, dont les sonnets d'ailleurs sont réédités dans certains pays. Enfin, en histoire, on a un livre en fait de Sophie de Redville, mais qui est un livre pour la jeunesse, Le Coutume Gaulois. C'est une éditrice spécialisée pour la jeunesse. Bien sûr, les séries Voyage, alors au 19e siècle, on sait qu'il y avait effectivement énormément d'ouvrages sur de voyage, puisque c'était les livres de géographie de l'époque. Et puis, pour terminer, donc un livre dans la série Beaux-Arts de Félicie Desac, qui est une poétesse, professeure à la maison d'éducation de la Légion d'honneur à Saint-Denis. Et donc, elle est l'autrice d'une histoire complète de l'abbaye de Saint-Denis. Au final, donc, dans ce fond de l'abbaye, il n'y aura que 2 autrices qui ont écrit sur l'art. Donc, ça n'a pas été du tout la préoccupation du fond de l'abbaye. Alors, ce premier catalogue donne un aperçu de ce que deviendra celui de 1920 qui est là, puis celui de 1950 avec des romans pour se distraire et des romans d'édification, des ouvrages pour la jeunesse, des essais, des récits de voyage, donc peu de poésie et peu de livres d'art. Alors, ce bilan chiffré sur les 3 catalogues cumulés donc, correspond à 90 années d'achat d'ouvrages écrits par des femmes, soit un total donc de 470 autrices, 364 françaises et 107 étrangères. On voit que les étrangères, c'est une proportion importante. Alors on peut comparer ces données avec le nombre d'autrices recensées dans ces années, entre les 2 siècles. 1894, on comptait 2133 femmes de lettres. Et en 1910, 3500, donc progression de 34%, mais c'est effectivement des chiffres qui sont assez bas. C'est à ce tournant du siècle que les premières études sur les femmes autrices sont publiées. Elles marquent le début d'une vision plus positive de la place des femmes dans la littérature. comme l'écrit Marcel Tiner dans son roman La Rebelle de 1905, qui se trouve à la BAI, les femmes de lettres ne sont plus méprisées depuis qu'elles font fortune. Elle gagnera près de 40 000 francs en 1910. Voilà, donc c'est le début du XXe siècle. Alors en 1905, l'abbé Louis Bethléem débute sa publication « Romans à lire et romans à proscrire ». Il y défend ou critique vertement de nombreuses autrices, hein, selon les valeurs morales bien entendu, mais aussi littéraires. En 1909, deux études sur la littérature féminine paraissent. Enfin, au lendemain de la Première Guerre mondiale, une nouvelle vague d'études sur les autrices est publiée. En 1920, dans l'ouvrage « 25 ans de littérature française », Eugène Montfort confie à Henriette Charasson un chapitre consacré à la littérature féminine. Et en 1925, Jean Larnac écrit une histoire de la littérature féminine en France. Ainsi, dans ce premier quart du XXe siècle, les femmes sont entrées dans l'histoire littéraire en tant que groupe et non plus individuellement. Donc 50 à 60 ans après la création de la BAI, hein, quand même. Alors dans ces mêmes années, nous voyons également des Français s'intéresser de près aux écrivaines étrangères, avec des ouvrages, donc il serait trop long de présenter ici. Les autrices étrangères sont présentes entre 20 à 30% dans le fond, donc avec une permanence sur ces 90 années. Alors les autrices françaises nées avant 1800, ça va donc de Marie de France à la comtesse de Ségur, hein, qui est née en 1799, donc elle est vraiment à la limite, hein. Ce sont pour l'essentiel des aristocrates. Parmi les autrices françaises nées au 19e et 20e siècle, donc de Georges Sand à Raymond Vincent, 145 sont nées avant 1875, donc avant ces différentes lois en faveur de l'enseignement. Et on voit également 65 autrices qui n'ont pu être identifiées avec des dates. Donc on peut dire même que plus généralement, il est difficile d'avoir des informations sur l'histoire et la formation de ces femmes, hormis quelques exceptions. En général, c'est plutôt les mondaines dont on a gardé le souvenir. Pour les autrices étrangères, la première, donc Vittoria Colonna du XVIe siècle, ça va jusqu'à Kathleen Windsor, qui est la Benjamine de notre catalogue. Elle est née en 1919. Le tableau des autrices étrangères nous montre la domination de la littérature anglo-saxonne avec l'essor des américaines qui profitent d'une éducation scolaire et universitaire d'avant-garde. On en a parlé ici, hein, les 7 universités féminines qui étaient, on les appelait les 7 sœurs, hein, des universités américaines qui ont été fondées au 19e siècle. À noter que plusieurs écrivaines étrangères écrivent directement en français. On les a classées dans le catalogue parmi les françaises. Alors, la littérature s'est complexifiée depuis le début, donc le milieu du 19e siècle. De nouveaux mouvements et genres littéraires sont apparus. Pour présenter ce catalogue, je me suis toutefois inspirée de la segmentation d'Henriette Charasson, dont on a parlé tout à l'heure, en 1920, qui mêlait déjà thèmes et genres littéraires. Elle parlait par exemple de romans algériens, pour désigner ce que j'ai nommé les romans exotiques. Alors il y a bien sûr les deux grandes parties du roman d'amour et les romans réalistes qui sont détaillés donc afin de mettre en valeur la spécificité de la littérature écrite par des femmes. On le feuilletera tout à l'heure, le catalogue. Je ne sais pas si on pourra aller jusqu'au bout. En tout cas pour le roman, on va essayer de présenter la production. Donc l'enrichissement du catalogue au fil des années, le conseil d'administration s'est réuni chaque mois pour faire vivre le fonds. Chaque lecteur pouvait inscrire sur un cahier les titres des ouvrages qu'il souhaitait voir achetés. La BAI recevait aussi des dons de particuliers et un certain nombre d'autrices sont entrées dans le catalogue de cette manière. Il y a aussi, donc au centre, vous avez les œuvres libres, qui est une revue que publiait Fayard, qui est achetée à partir de juillet 1921 et qui a permis à de nombreuses autrices d'entrer dans le catalogue, notamment des étrangères. La revue est vraiment très sensible aux nouveautés et à la création. La BAI était aussi abonnée à l'illustration, donc elle recevait les suppléments d'illustration, dont l'illustration théâtrale créée en 1909, l'illustration roman, et puis à quelques numéros d'illustration poésie. Et nous avons encore pour la dernière image, c'est la mode du petit journal avec quelques courts romans dans ses suppléments. Alors, les romans au catalogue sont le reflet de la vie intellectuelle de l'époque. les best-sellers donc, sont généralement achetés et en partie les prix littéraires. Alors il est important de souligner que la BAI a été dirigée par une femme qui était vraiment exceptionnelle, Pauline Désiré-Veillère, secrétaire générale de l'association entre 1907 et 1916, date à laquelle elle devient présidente par intérim, donc on est pendant la guerre. Elles étaient deux institutrices au bureau. Entre les deux guerres, elle conserve cette fonction de présidente. À cette époque, son influence fut déterminante dans le choix des autrices au catalogue. Et on le remarque en particulier, car elle fait acheter systématiquement le prix Fémina, hein, qui est noté entre les deux guerres, hein, qui est noté toujours, hein, en décembre ou en janvier, elle le note, acheté Fémina, même sans mettre le titre. Et on note donc avant la guerre, seulement deux prix Fémina sur six attribués aux femmes donc, sont au catalogue, et ensuite on les trouve tous. Hein, donc il y a bien eu un effet Veillère dans la présence des femmes au catalogue. Alors, dernière image pour la présentation, c'est le classement des autrices qui ont plus de 5 ouvrages au catalogue. Donc, bien sûr, George Sand, première toute catégorie, hein, avec 79 titres, là, elle était vraiment imbattable. Colette, au second, hein, précède de peu les autrices de romans sentimentaux, Henri Gréville, Marcel Tiner, Gip, Henri Hardel, toutes ces autrices de romans sentimentaux. Dans ce tableau, un quart des autrices publient sous pseudonyme masculin ou non genré, hein, comme Gip, qui est le nom de plume de Sibylle Riquetti de Mirabeau, Délie, hein, celui d'une sœur et d'un frère, Jeanne-Marie et Frédéric Petitjean de La Rosière. À noter encore que pendant cette période, nous assistons à l'émergence d'autrices qui viennent des classes populaires, ouvrières et employées, comme Marcel Vieux, 10 titres au catalogue. Elle a déclaré qu'elle avait été bergère, comme Marguerite Audoux, avant de travailler à l'âge de 11 ans dans une usine. Et puis également, donc, Neil Dove, que l'on verra un peu plus tard, qui est vraiment un cas particulier. Encore dans ce tableau, Danielle Le Sueur, pseudonyme donc de Jeanne Loiseau, avec 12 titres. Elle faisait partie en 1910 des 10 écrivains les mieux rémunérés en France. Elle a gagné plus de 60 000 francs de droits d'auteur, selon Hélène Constant, qui a fait une recherche, donc un travail sur ses salaires de ses autrices. Alors, on va donc commencer à dérouler donc ce catalogue. C'est déjà une première sélection par rapport au catalogue complet qui est là, que je vais faire passer d'ailleurs. Hein. Et moi, je ne parlerai que de 2-3, sinon on y passerait la nuit. Je vous propose donc de feuilleter ce catalogue en nous arrêtant pour chaque section sur quelques œuvres qui m'ont paru intéressantes et que pour la plupart je ne connaissais pas. C'est donc une exploration personnelle et subjective de ce catalogue que je vous invite et qui donc va être limitée par le temps. La BAI compte une quarantaine d'autrices de romans sentimentaux ou de romans d'amour. Les romans de Gip et Jean de la Brette sont représentatifs du roman sentimental de la Belle Époque. Ils mettent en scène des jeunes filles émancipées, guidées par des hommes d'âge mûr vers le mariage. Le cadre est toujours l'univers de la haute bourgeoisie et de l'aristocratie. Alors Jean de la Brette, donc Alice Cherbonnel, est restée très discrète. Pourtant, mon oncle et mon curé auraient été vendus à 4 millions d'exemplaires, à la faveur, sans doute, de son adaptation au cinéma. 50 ans après, en 1939, elle a 5 romans à la BAI. Après 1900, la jeune fille ou le jeune homme finit par s'émanciper, par elle-même ou par lui-même, et évolue parfois dans un univers plus populaire, comme celui des pêcheurs en Bretagne, dans le roman Cadet Oui Oui de Claude Lemaître, paru en 1911, qui est très intéressant. En fait, ils sont plus intéressants que le titre ne le laisse supposer. Hein. Entre les deux guerres, des romans sentimentaux donc s'ouvrent peu à peu à l'exotisme. Le roman de Kiku Yamata paraît au moment où le Japon s'ouvre à l'Occident. Paul Claudel est ambassadeur au Japon depuis 1921. Elle est née au Japon d'une mère française et d'un père japonais qui avait été invité par Émile Guimet. C'est Kiku Yamata qui a été la première à traduire des fragments du dit de Genji à cette époque-là. Le roman Masako est dédié à Paul Valéry, donc il y avait vraiment tout un intérêt du monde intellectuel aussi. Le roman Masako est assez, enfin un peu enfantin, mais elle écrira La Dame de Beauté plus tard, pendant la Seconde Guerre mondiale et qui est vraiment très intéressant, très beau. Alors, les romans sentimentaux, donc pour adultes, nous avons bien sûr Henri Gréville, on avait eu un exposé l'année dernière. Autre autrice prolifique de la Belle Époque, la discrète Henri Hardel, Berthe Abraham, née à Amiens, avec 17 romans au catalogue, dont 8 acquis avant la Première Guerre mondiale et jusqu'en 1936. Donc c'était vraiment quelqu'un qui a eu une présence continue au catalogue. Elle fut enseignante dans un établissement pour jeunes filles, puis directrice, et comme Jean de Labrette, elle est restée célibataire à écrire ses romans d'amour. Les romans de l'entre-deux-guerres, donc de Max de Vesit et de Delis, sont plutôt des romans mondains, qui sont des gros succès de librairie. Alors, je vais vous parler du cas particulier d'Yvonne Schulz entre les deux guerres, donc pendant ses années de colonisation. Elle débute sa carrière de romancière avec des histoires sentimentales très classiques qui se déroulent en France. Elle suit son mari en Indochine et va désormais s'inspirer de l'Extrême-Orient. Le Sans-Panier de la baie d'Along met en scène la vie des pêcheurs annamites dans l'actuel donc, Vietnam de la baie d'Along. L'illustration qui publie le roman présente l'autrice dans les pages du journal avec des photos du lieu où se passe l'action. Et donc, ce que je voulais aussi préciser, c'est qu'il y aura un second roman qui ne va pas être acheté par la BAI, mais qui m'intéresse parce qu'il souleva une violente polémique à sa sortie. Il a pour titre « Dans les griffes des geôliers ». Il raconte l'histoire d'une femme revenue de l'enfer des geôliers qui enlevait les annamites pour les vendre aux propriétaires terriens. Certains étaient des colons français, d'où une campagne de haine contre Yvonne Schulz. C'est assez étonnant, cette femme qui passe du roman sentimental à un roman qui dénonce des faits dans un pays colonisé par nous. Et donc après, alors elle va revenir à ses romans sentimentaux en inventant le personnage de Mama Chine, une sorte de double qui raconte des histoires d'amour exotiques à l'humour léger. Donc elle est revenue à des choses peut-être plus à sa dimension à l'époque. Ensuite, on va passer aux romans psychologiques. Alors, dans ces romans du XXe siècle, un thème nouveau apparaît, celui de la femme de la quarantaine, âge que l'on sait difficile. Et nous avons deux romans qui traitent de ce thème-là, de cette femme de la quarantaine qui se demande ce qu'elle va devenir. En particulier, j'ai découvert ici ce roman de Karine Michaelis, qui est une Danoise, L'âge dangereux, qui avait été traduit par Marcel Prévost. Donc c'est l'histoire de cette femme, Elsie Linder, qui s'est retirée dans une petite villa qu'elle a fait construire avec l'aide d'un architecte au bord d'un lac. Elle écrit à son mari, avec lequel elle vient de divorcer, à ses amis. Ses lettres alternent avec son journal qui relate ses moments d'introspection dans la solitude. Et L'âge dangereux a fait l'objet à l'époque de sa sortie d'une étude de l'une des premières femmes psychanalystes russes, Tatiana Rosenthal. C'est un ouvrage qui a complètement disparu, qui est caché ici, au premier étage, et qui, à mon avis, peut être intéressant de ressortir. Donc, Guillemette mariée aussi donc, avec la poupée sans visage, traitée du sujet différemment en France. Autre nordique remarquable, la norvégienne Sigrid Undset, que l'on connaît tous, car elle a eu le prix Nobel de littérature. L'ouvrage a été acheté en 28, donc au moment de ce prix qui lui a été décerné. Et en fait, donc, c'était un jeune journaliste suédois, Victor Wendt, qui avait introduit ce roman deux années auparavant. Et donc, au moment de la reprise du prix Nobel, finalement, les Français ont découvert cette autrice à travers ces deux nouvelles, hein, L'âge heureux, suivi de Sibonsen, qui sont très très modestes en fait, hein, puisqu'elle a reçu ce prix pour quelque chose de beaucoup, beaucoup plus important, qui était sa trilogie Christine Lavrentstater. Alors, les romans romanesques, beaucoup de romans anglais dans cette catégorie. Je vais parler que de deux autrices, donc Ouida, qui est de son vrai nom Maria-Louise de la Ramée, qui vivait près de Florence. Elle y accueillait ses compatriotes, parmi lesquels se mêlaient de mystérieux Américains fort riches. Nous retrouvons cette gentry aux mœurs libérées dans ce roman, jacassant et médisant sur deux jeunes femmes artistes, l'une chanteuse, l'autre peintre, préférant l'amitié à l'amour. Elle a été très critiquée pour son style très relâché, mais actuellement, ses romans suscitent un regain d'intérêt pour ses peintures sociales. Et deuxième autrice intéressante dans cette liste, enfin elles sont toutes intéressantes, hein, mais que je vais mettre en valeur, c'est Danielle Le Sueur, donc Jeanne Loiseau, de son nom de jeune fille. Elle a écrit une trentaine de romans, 13 sont entrés au catalogue de la BAI. Alors c'est elle qui revendique ce genre du roman romanesque qu'elle préférait au roman psychologique. Nietzschéenne, donc paru en 1908, est l'histoire de Robert Clérieux, héritier d'une entreprise de construction automobile, qui rencontre Jocelyne, décrite comme une philanthrope doublée d'une capitaliste vieille fille par vocation, donc belle et intelligente. Celle-ci a fait construire une ville ouvrière idéale dans le nord de Paris. Grande lectrice de Nietzsche, elle convertit Robert Clérieux à la notion individuelle de volonté de puissance, donc de confiance en soi, pour diriger son entreprise et ses ouvriers. Vous voyez, le propos est assez étonnant, en 1908, de la part d'une femme. Alors, parmi les féministes, bon, nous avons bien sûr George Sand, enfin, on revendique en général son ouvrage, Indiana, comme étant l'un des premiers ouvrages féministes. Mais je vais m'arrêter sur deux autres femmes. Cécile de Jong, qui est une néerlandaise, et Marcel Tiner, pour leurs deux romans qui paraissent à peu près en même temps. Ils sont construits sur une trame narrative soutenue par un discours féministe, formant une sorte de manifeste. Ils revendiquent vraiment ce positionnement. Les deux personnages féminins qui sont créés sont des orphelines qui vivent dans un contexte donc social très différent. Dans l'inévitable réparation, Hilda est une jeune aristocrate qui veut se rendre utile. Elle deviendra avocate, encouragée par son futur mari qui s'intéresse aux questions sociales. Elle réussit donc à concilier vie affective, maternité et travail. Dans La Rebelle, le roman de Marcel Tiner, Josanne est une journaliste devenue veuve, élevant seule un enfant né hors mariage. Sa vie amoureuse complexe évolue en même temps que sa carrière de journaliste dans un journal fictif, Le Monde Féminin. Son personnage, contrairement à Hilda, est donc une Française moyenne, éduquée mais sans soutien. Elle choisira une vie amoureuse libre, un compagnonnage plutôt qu'un nouveau mari. Vous voyez, deux ouvrages qui paraissent à peu près en même temps en France et qui sont des romans féministes, mais avec une couleur vraiment très très différente. On a à cette époque-là ce que j'ai appelé des anti-romans sentimentaux. Ce sont des comédies qui se moquent des grands séducteurs, qui sont très amusants. Et oui, et donc nous avons aussi Anita Loos, Les hommes préfèrent les blonds, qui est bien un ouvrage écrit par une femme et non pas, comme beaucoup le pensent, par un homme. Et qui a été édité et publié et acheté par la BAI. Alors parmi les romans féministes encore, donc le roman de l'identité, avec trois ouvrages où les femmes s'habillent en hommes. Ce sont d'aristocrates qui veulent défendre leurs droits, leurs titres. Donc à part bien sûr celui de Virginia Woolf qui évoque plus l'androgynie. Germaine Beaumont est une autrice très intéressante qui a travaillé à la radio dans les années 30, qui a produit l'émission Les Maîtres du Mystère, redécouverte. Parmi les romans autobiographiques, j'ai retenu donc Myriam Harry. Alors Myriam Harry, c'est elle qui avait écrit La Conquête de Jérusalem, le premier roman qui avait reçu le prix Femina. Le prix Femina avait été créé pour elle, parce que le Goncourt n'avait pas voulu lui donner. C'est un roman, mais le fond est quand même sa propre histoire, avec un père qui, finalement, se suicide dans la réalité et dans le roman. Donc, dans la série des Siona, elle revient sur sa propre histoire, dans des petits romans qui sont plus accessibles. Et Mireille Havé, alors, c'est une lesbienne fumeuse d'opium qui était très connue dans le monde littéraire de l'époque. Carnaval n'est pas très intéressant, mais son journal est, paraît-il, très riche et étudié à l'université. J'ai rencontré au dernier salon du livre Claire Polan qui édite et qui préparait le 6e volume de son journal. Donc il m'a vraiment invité à les lire. les romans de l'école et de l'étudiante. Bien sûr, nous avons tous les romans anglais, Jeanne d'Arc et autres professeurs, donc romans qui sont bien connus. Alors, je vais m'arrêter à Colette Hivert, qui traitait donc le sujet des étudiantes de manière très particulière à l'époque. Elle met en scène des étudiantes confrontées au choix, après leurs études, de travailler ou de se marier. Nous sommes vraiment dans l'univers des bourgeoises. La BAI va acquérir ses deux premiers ouvrages dès leur sortie, et Princesse de Science, ce qui me tient vraiment, a obtenu le prix féminin en 1907. Les deux romans donc, à la BAI mêlent intrigue et dialogue argumentatif pour un débat qui semble dès le départ perdu d'avance. Ainsi, dans Princesse de Science, l'héroïne, malgré ses convictions et ses talents, finit par abandonner la belle carrière de médecin qui s'ouvre à elle sous la pression de son mari. Reste que dans les romans de Colette Hivert, la femme est reconnue capable des meilleurs talents et qu'elle peut travailler pour des raisons économiques ou par conviction féministe. L'accès au lycée et à l'école normale des jeunes filles à la fin du 19e siècle a fait aussi l'objet de plusieurs romans de Gabrielle Réval. Aucun de ses ouvrages parus entre 1900 et 1904 n'ont été achetés par la BAI, pas plus que La Bachelière qui paraît en 1910. Bien plus tard, en 1935, à l'occasion du cinquantenaire de l'école normale de Sèvres, donc, Gabrielle Réval revient sur la réception houleuse de son premier roman, Les Sèvriennes, dans un long article que l'on trouve à la BAI, La Grande Parade des Sèvriennes, donc un article qui paraît dans les œuvres-livres. Elle se souvient des critiques du ministère de l'Instruction publique et des professeurs, scandalisés qu'une ancienne Sèvrienne puisse se moquer de l'université, de ses principes et de ses maîtres. Et elle revient sur le contexte, rappelle le rejet des femmes de son époque pour le travail. Des femmes toujours bourgeoises, hein, on est vraiment dans ce cadre-là. Il était perçu comme une déchéance, travailler c'était se déclasser, se souvient-elle. Et elle-même donc va écrire, hein, elle aura un enfant au moment de la sortie de son livre, donc elle a fait le choix vraiment d'une vie qui n'était pas de travailleuse, elle avait une vie très très confortable. Entre les deux guerres, donc les mentalités vont évoluer. La BAI va faire l'acquisition des romans de Jeanne Galzy, normalienne, professeure de lettres au lycée. Elle décrit son expérience d'enseignante dans La femme chez les garçons et propose elle aussi un roman sur l'école normale, Les jeunes filles en serre chaude, donc en 1934. Alors pour terminer cette partie romans sentimentaux, romans d'amour, une sélection d'ouvrages sur le mariage et la maternité. Alors il y a Frédérica Bremer, dont les livres, les ouvrages ne sont plus du tout lisibles aujourd'hui, mais qui a été la grande pionnière féministe en Suède, hein, au XIXe siècle. Et par contre, nous avons donc trois autres beaux ouvrages. Geneviève Fauconnier, prix féminin 1933. Le titre, c'était Claude. Je ne peux pas m'empêcher de vous citer une phrase, donc où c'est la seule fois où j'ai lu une scène d'allaitement dans tous les ouvrages que j'ai pu lire de la BAI, et je trouve que c'est très joli. Elle dégrafe la doublure baleinée, écarte le corset, déboutonne la chemise de flanelle et du plat de la main hausse hors du gousset de satin broché, un sein sur lequel elle ramène le chantilly de son rabat. C'est la cérémonie pour allaiter, hein. Le chantilly, c'était bien sûr un nom de tissu. Nous avons donc aussi Suzanne Martinon, Eux et nous, donc, qui a aussi un joli texte sur l'évolution de la relation qu'une mère en voyant grandir ses enfants. Et puis, alors peut-être que vous le connaissez, le roman de Suzanne Rattel, La maison des Bories, qui a été adapté au cinéma, qui a eu le prix Interallié. Dans Claude, le roman de Geneviève Fauconnier, il y a un travail sur la mémoire qui est extrêmement beau. Vraiment, c'est un ouvrage à connaître. Il n'a pas été réédité, mais personnellement, je trouve qu'il est vraiment très beau. Nous allons passer donc au roman réaliste. Donc, au début des années 30, Henri Poulaille remet sur le devant de la scène George Sand dans son Nouvel Âge littéraire. Il y promeut une littérature préoccupée par des questions sociales, ouvriéristes et populaires. Il intègre donc dans ce corpus les romans rustiques de George Sand, qui a été l'une des premières écrivaines à faire parler ces personnages en patois et à décrire les traditions rurales dans ses romans. Donc à la suite de cette autrice, on va avoir en Belgique, au XXe siècle, Marie Jevers, qui est très connue en Belgique, hein, Marie Moron pour la Provence, qui vont être très attachées aussi au respect de la langue. Et puis ces romans rustiques donc, sont parfois réédités. Donc, je parlais tout à l'heure de Campagne de Raymond de Vincent, Prix Femina 1937, je vais bien faire passer. Hein. Ce thème qui chante la beauté de la nature et des saisons invite à un travail d'écriture poétique. Et donc dans ce segment, il y a beaucoup de nombreux prix Femina qui vont être attribués à ces ouvrages écrits par des femmes sur la nature. Donc les romans populistes, ouvriéristes, nous avons bien sûr Marguerite Audoux, que tout le monde connaît, hein, je pense. Et à l'époque, il y a eu Simone Baudet également, qui était soutenue par Romain Rolland, qui a aussi concouru au Goncourt et qui n'a pas eu de prix. Par contre, de Simone Baudet, on aura un texte sur des enquêtes sur les ouvrières qu'on pourra voir dans les essais. Et puis Marguerite Audoux, donc son prix Femina ne sera pas acquis avant-guerre par la BAI, mais ensuite ses ouvrages seront achetés, donc entreront au catalogue. En février 1923, Monsieur Banque, c'est un habitué des dons, il dépose à la BAI le premier livre de Neil Doff. Tous les ouvrages de cette autrice seront achetés en juillet 1927. Donc c'était dans ces années de 1910, les mêmes années de l'apparition donc, de Marguerite Audoux et de Simone Baudet, Neil Doff, qui est remarquée par le milieu littéraire parisien. Elle était néerlandaise et vivait en Belgique, d'où le refus du Goncourt de la prendre dans sa sélection. Elle a plus de 50 ans quand elle commence à écrire sa trilogie autobiographique. « Jour de famine et de détresse » paraît en 1911. Il raconte l'enfance de Kidge, donc le double de Neil Doff, jusqu'à l'adolescence et le début de la prostitution. « Kidge Trottin » paraît en 1921, publié en dernier, revient sur sa jeune adolescence, vers l'âge de 12 ans. Elle travaille comme trottin, c'est-à-dire comme livreur. Et dans Kige 1919, elle est prostituée à 15 ans par ses parents. De cette enfance miséreuse, elle en fait un récit d'apprentissage. Son éducation est faite de rencontres et de lectures. Et grâce à ses livres, elle va devenir célèbre. Colette viendra la voir en passant à Bruxelles. Et Henri Poulaille l'encourage à revenir à l'écriture dans les années 30 et publie ses recueils de nouvelles. Et tous ses ouvrages sont à la BAI. Il y a eu vraiment ici un intérêt pour ces textes qui sont très beaux. Nous avons également dans cette catégorie Jolane Foldès, qui a eu donc le Grand Prix international du roman, Rue du Chat qui pêche, en 1936. C'est une Hongroise. Donc, il y a eu un concours qui a été organisé en 1936 par 12 éditeurs de 12 pays différents. Et donc, c'est elle qui avait remporté ce prix, qui a été donc traduit dans ces 12 pays. Alors la rue du Chat qui pêche est le nom de la plus petite rue de Paris, hein, face à Notre-Dame, où vit donc entre les deux guerres une communauté d'immigrés. Donc c'est la famille Barabas, une famille ouvrière hongroise, et également donc des exilés russes, espagnols, italiens, au rythme des révolutions dans leur pays. Et c'est très aussi un témoignage très très émouvant de l'émigration entre les deux guerres, et puis aussi d'une manière un petit peu universelle. Sur ce thème de l'immigration. Dans cette partie, le réalisme social, je parlerai de Blanche Vogt. Elle a été proche du Parti Socialiste et de Jaurès, dont elle a écrit un portrait. Et dans ce roman Amour Socialiste de 1919, elle fait le récit d'une relation toxique entre un cadre socialiste et une jeune journaliste, qui est toujours d'actualité. Henriette Charasson trouvait ce roman d'une ironie âpre et étincelante. Je trouve aussi que son texte est intéressant. Et puis donc nous avons les ouvrages d'Irène Némirovski avec David Golder qui a eu aussi un grand succès. Alors pour les romans exotiques, Maximilienne Heller et Lucienne Fabre étaient reconnus comme faisant partie du mouvement littéraire algérianiste. Mais la seule véritable algérienne est Elissa Reiss. Elle eut beaucoup de succès avec Saada la Marocaine en 1919. Donc c'est très imprégné, couleur locale. Les éditions Plomb présentaient l'autrice comme une musulmane qui serait sortie d'un harem pour écrire ses histoires en français. En fait, elle était d'origine juive, Rosine Boumendil. Hein. Donc sa carrière sera marquée par les polémiques sur ses capacités à écrire ses romans et par cette fable imaginée par Plon qui lui portera préjudice. Alors une petite page réalisme étranger avec bien sûr donc certains ouvrages de Charlotte Brontë, de George Eliot, Mary Webb au XXe siècle dont le roman Sarne a bénéficié d'une préface du premier ministre anglais de l'époque, Stanley Baldwin, qui évoque la vie rurale du comté de Shropshire. Mon accent n'est pas très bon, dans l'ouest de l'Angleterre. C'est un roman vraiment très très rural. Hein. J'ai remis le roman d'Harriet de la Beecher Stowe, le livre La case de l'oncle Tom, parce qu'elle est considérée par les spécialistes de la littérature américaine comme précurseur de la littérature régionaliste. Elle transcrivait des parlers locaux, enfin, elle a mis en valeur les cultures locales. C'est un courant très important aux États-Unis. Alors il y a peu de traductions en France de leurs ouvrages, des ouvrages de ces autrices américaines. Il y a quand même ceux de William Cather, qui n'est pas à la BAI, qui sont très très beaux, les romans de William Cather, sur le Nebraska. Hein. Il y a juste un petit texte d'elle, mais qui est un roman naturaliste, Mon ennemi mortel, qui est aussi un très beau texte. Nous avons donc dans cette partie Pearl Buck, avec son prix Nobel de littérature en 1938. Grazia Deledda pour l'Italie, avec le mouvement Le Vérisme, hein, on parle du vérisme en Italie, prix Nobel de littérature en 1926. Donc on voit finalement que sur le plan international, cette littérature réaliste était vraiment, bien sûr, mise en valeur. Ces mouvements littéraires, ces genres littéraires, pardon, sont émergents, hein, donc fantastiques, les textes ne sont pas très intéressants. L'intrigue policière, cela vient uniquement des Anglais et des Anglaises et des Américaines, avec des textes vraiment intéressants. J'en ai lu deux qui étaient vraiment très très bien. Mais on remarquera surtout en science-fiction le travail de Noël Roger, que j'ai aussi découvert, qui est une Suisse et qui a écrit une série de romans d'anticipation qui sont vraiment intéressants, très très bien faits. Assez étonnant pour cette époque, même pour les hommes. Il n'y avait pas tant de romans de science-fiction à l'époque. Donc là, c'est un roman. Moi, j'ai lu Le Nouvel Adam en pensant que c'était un roman féministe, mais pas du tout. C'est un roman d'anticipation scientifique et sociale dans le milieu de la médecine, le thème du surhomme. Les romans historiques, bien sûr, on a George Sand avec énormément de romans historiques. Et surtout, donc, les contes pour adultes, on a à nouveau un prix Nobel de littérature avec Selma Lagerlöf. Je pense qu'elle est plus à présenter, donc, avec la légende de Gösta Berling. Alors, il est toujours publié avec la traduction de l'époque, d'André Belsor, qui était en fait une adaptation. Alors, je ne connais pas le suédois, je ne sais pas ce qu'il en est, mais c'est étonnant qu'on n'ait jamais revu cette traduction qui est présentée comme une adaptation. Alors, nous quittons le roman pour lire les dramaturges. Dans cette section, bien sûr, les pièces de théâtre de George Sand, c'est en fait des adaptations de ses romans, ça aussi je l'ai découvert, je veux dire. Et elle les a vues monter, elle a vu monter ces pièces de théâtre tirées de ses romans, donc un certain nombre qui sont, enfin c'est assez important. Ensuite, on a une collection théâtre de campagne, initiée par Ernest Legouvet, un pédagogue hein, du 19e siècle, et on a juste un tout petit texte d'Amélie Viltard sur une série de 8 volumes, assez étonnant qu'il n'y ait pas plus de femmes, mais on est là au 19e siècle, on n'est pas au 20e, donc publié entre 1876 et 1882. En volume également, nous avons les deux pièces de Marie Le Néru, hein, qui est la seule dramaturge femme qui est restée dans l'histoire de la littérature donc de cette époque-là. Avec la pièce Les Affranchis, qui a eu donc vraiment un grand succès, montée en 1908 par André Antoine, qui présentait en matinée un programme de jeunes auteurs au théâtre de l'Odéon. Elle sera reprise en 1927 à la Comédie Française. De la vie de tout le monde, sa deuxième pièce, Le Redoutable. Alors, la pièce de Marie Le Néru aborde le thème de l'emprise d'un homme adulte sur une jeune fille fragile. Et c'est aussi le thème de la pièce de Marguerite Kennedy qui résonne avec nos débats actuels. Margaret Kennedy donc adapte au théâtre son roman Tessa, la nymphe au cœur fidèle, publié en 1924. Elle écrit une suite, L'idiot de la famille, en 1930, qui devient également une pièce de théâtre sous le titre Tu ne m'échapperas jamais. Et on trouve à la BAI. Alors là, nous sommes dans la collection de l'illustration théâtrale. Hein. Mmh. Ce ne sont plus des textes qui paraissent en volume. Dans l'illustration théâtrale, c'était des pièces de théâtre qui étaient jouées donc, à Paris et qui avaient un grand succès. Donc on trouve à la BAI la traduction de ces deux pièces jouées en France en 1934 et 1936 et également donc une adaptation de Jean Giraudoux avec le simple titre Tessa, la même année. Alors la pièce met en scène la famille Sanger, dominée par la forte personnalité du père musicien, un artiste génial. Ses enfants nés de différents mariages sont élevés librement. Un critique de l'époque écrit à propos de ce personnage. Un Sanger, c'est un artiste qui n'a conscience que de son art. Son égoïsme égale sa séduction. Il y a en lui une sorte de folie, d'où naissent à la fois son charme et sa malfaisance. Et donc la douce Tessa, qui est l'une de ses filles âgées de 15 ans, va s'éprendre d'un musicien admirateur de son père. C'est une tragédie à la fin. Et la seconde pièce, donc Tu ne m'échapperas jamais, met en scène le demi-frère de Tessa, qui répète la même histoire avec une jeune femme rencontrée à Venise. Deux histoires très tristes qui n'aboutissent pas nécessairement à une mort, mais qui aboutissent à beaucoup de complications. Pour terminer, Lillian Hellman, encore une Américaine, elle a écrit aussi une pièce de théâtre sur l'histoire d'une adolescente qui ruine la carrière de deux de ses professeurs en les accusant d'entretenir une liaison homosexuelle. Elle est jouée en France en 1936, donc tous ces textes datent d'entre les deux guerres. Et ce sera donc adapté au cinéma en 1962 sous le titre La Rumeur avec Audrey Hepburn.
Un très très beau film. Ouais.
Qui est une adaptation cinématographique de cette pièce. Et puis on a donc une pièce de théâtre d'une Espagnole. L'histoire se situe dans un couvent de sœurs dominicaines, c'est assez curieux. C'est une femme de lettres, femme politique, qui a été élue en Espagne en 1934. Elle a dû s'exiler, bien évidemment, en 1936. Un critique qui écrit à propos de ce spectacle, pendant des mois et des mois, ce Paris de l'après-guerre se détourna tous les soirs de ses jazz bands et de ses cabarets nègres pour déléguer vers le petit théâtre de l'avenue Montaigne des admirateurs fervents que bouleversèrent l'histoire de Thérèse. Thérèse, donc, dans ce couvent. Et c'est vrai que c'est une histoire très émouvante. Et puis pour terminer, Marcel Morette, peut-être que vous la connaissez, qui a été une dramaturge célèbre en son temps. Elle a écrit beaucoup de pièces de théâtre historiques. Elle a eu un tel succès qu'elle a été jouée à New York. Nous avons eu aussi quelques autrices qui ont été jouées à New York. Alors, je vais encore présenter les journalistes et essayistes, parce qu'il y a des femmes intéressantes dans ce domaine. Thérèse Benson, note de voyage des Américaines chez elle en 1904. Elle part en reportage aux USA en 1893, elle a alors 53 ans. Pour le compte de la revue des Deux Mondes, elle y publiait depuis près de 20 ans des articles sur la littérature anglo-saxonne. La rédaction l'a chargée d'étudier les conditions de vie de la femme américaine de toutes les classes sociales. Elle séjourne dans les grandes villes du Nord et poursuit son voyage en Louisiane à la Nouvelle-Orléans. Elle interview toutes les féministes, écrivaines, journalistes et femmes d'influence qui comptent à cette époque-là aux États-Unis. Et elle va aussi s'intéresser aux actions menées auprès des minorités noires et indiennes. Et donc la version volume de ces articles paraîtra en 1908. Et c'est vraiment un ouvrage, une mine d'informations sur les femmes américaines à la fin du 19e siècle. J'ai appris énormément, c'est un vrai plaisir et j'aimerais bien moi, que cet ouvrage soit réédité parce qu'il apprend beaucoup sur l'Amérique du 19e siècle et on comprend aussi d'où ça vient, cette éducation américaine qui a été aussi importante et aussi remarquable encore aujourd'hui, même si elle est contestée en ce moment. Je vais parler aussi d'un ouvrage de Marie Van Vorst, je crois que c'était sa belle-sœur, Bessie Van Vorst. Donc deux Américaines ouvrières aux États-Unis, avec une lettre préface de Theodore Roosevelt, pas Franklin, Theodore Roosevelt, président donc à cette époque-là. Alors elles ont fait un reportage en immersion dans des usines. Elles sont devenues ouvrières pour écrire ce roman. Le reportage en immersion était très avancé aux États-Unis. Hein. Nous, on a aussi eu des journalistes qui ont fait ça dans les années 30, mais les Américaines avaient commencé auparavant. Et donc, elles vont partager la vie des ouvrières dans différents types d'usines, une filature, une manufacture. Elles vont faire plusieurs expériences. Et elles évoquent également donc, le travail des enfants. Et curieusement, donc, Roosevelt s'insurge contre le découragement des ouvrières et défend des valeurs de dignité et le goût de l'effort. Alors Simone Bodève, que nous avons vue tout à l'heure, hein, celle qui travaille, qui avait écrit La Petite Lotte, donc en même temps que Marie-Claire hein, de Marguerite Audoux, elle a publié dans l'Aurore, hein, on lui avait commandé une série d'articles sur les ouvrières, hein, des femmes ouvrières, qui paraissent en 1907 et 1908. Elles sont éditées en volume en 1913, donc avec une préface de Romain Rolland. C'est un ouvrage qui se trouve sur Gallica. Donc elle l'a divisé en deux parties, l'ouvrière à Paris et l'employé de commerce à Paris. Où on voit aussi les ouvrières dans leur moment de liberté, au moment de leur repas, etc. C'est très intéressant. Je vais encore parler de Pauline de Grandpré, la prison Saint-Lazare depuis 20 ans. Alors, elle a dirigé de 1870 à 1883 l'œuvre des libérés de Saint-Lazare, une institution qui tentait d'aider les femmes à leur sortie de prison. Maxime Ducamp donc, a écrit un long article en 1884 dans la Revue des Deux Mondes sur la charité privée, où il évoque l'œuvre de Pauline de Grandpré. Elle avait initié tout un mouvement avec d'autres, aboutissant à la création des premiers asiles pour femmes et enfants. Il y a tout un mouvement de philanthropes à cette époque-là qui n'est pas du tout connu aujourd'hui et que donc Maxime Ducamp mettait en valeur dans son article. Et puis donc nous avons deux reportages sur la prostitution. Alors Marie Choisy, elle est très connue, elle a écrit fait un reportage en immersion, donc assez un peu racoleur son ouvrage. Il a été vendu à 450 000 exemplaires. Je préfère le travail de Madeleine Paz. Femme à vendre, qui a dénoncé donc la prostitution institutionnalisée dans cet écrit. Elle a fait donc une enquête sur le terrain hein, avec des interviews de femmes. Se rappeler que des prostituées professionnelles étaient recensées par la police et devaient posséder un carnet sanitaire pour la surveillance des maladies vénériennes. Et si elles n'étaient pas référencées par la police, elles étaient emprisonnées. En fait, elle s'inspire de l'action de Joséphine Butler en Angleterre. Qui a œuvré pour l'abolition de la prostitution institutionnalisée, qui sera abrogée en 1886. Alors que nous, en France, 1926, on commence à créer l'Union contre la prostitution réglementée. Donc, Union, ça voulait dire qu'il y avait quand même un certain nombre de femmes qui travaillaient et qui sont réunies pour pouvoir avoir plus de poids. La prostitution réglementée existait depuis 1804 et elle sera abolie en 1946.
C'est une femme qui a fait ça, mais je ne sais pas comment elle s'appelle.
Alors ensuite, on a Jacques de Coussange aussi, elle m'a beaucoup intéressée, donc Calomar de Genestou. Alors elle écrit des articles et des essais sous pseudonyme masculin, mais elle signait de son propre nom ses traductions en allemand, suédois, danois. Donc elle écrit un ouvrage sur la Scandinavie et tous ses articles ont pour sujet des pays nordiques. J'ai mis du temps à comprendre un petit peu qui elle était. Elle a une sœur que j'ai retrouvée dans les autrices jeunesse, qui était assistante du directeur du département jeunesse chez Hachette et qui va devenir directrice du département Hachette enfance donc pendant quelques années jusqu'en 1942. Et la troisième, je crois que la troisième sœur était peintre. Hein, donc trois sœurs qui ont fait des choses intéressantes, qui étaient toutes les trois filles d'un militaire hein, de Lyon. Dont la mère était noble, donc elle avait, voilà, des jeunes filles cultivées. Et je n'ai pas réussi à savoir comment elle était arrivée à devenir une spécialiste de la Suède. André Violis, vous la connaissez, grande reporter française, et qui, avec Indochine SOS, avait fait un ouvrage qui dénonçait la situation donc, au Vietnam. Alors, les essayistes. Donc les grands essais des féministes du 19e et 20e siècle ont été achetés à la BAI, hein, de Daniel Stern, donc Marie de Flavigny, à André Léo, Julie Daubier, Yvonne Netter, et même jusqu'à Simone de Beauvoir qui a été achetée en 1949. Donc nous avons tous ces essais qui sont vraiment intéressants. Nous avons le second ouvrage d'art de Denise Jalabert avec ses ouvrages sur les sculptures romanes et gothiques. Donc, vous avez dit qu'elles étaient, voilà, il n'y avait pas grand-chose. Elle était diplômée de l'école du Louvre, qui a été créée en 1882, et conservatrice au musée de sculpture comparée, qui est l'ancien musée des monuments français. Alors, pas d'ouvrage de pédagogue moderne à la BAI, ni bien entendu dans l'anthologie de Paul Rousselot, qui est très complète, mais qui a été éditée en 1881. Donc la pédagogie n'a pas eu de renouvellement dans le fond. Alors en revanche, nous avons une dizaine d'autrices qui se sont adressées aux femmes au XXe siècle sur des sujets qui les touchent, donc la santé, l'éducation sexuelle, la maternité, l'hygiène corporelle, les ouvrages pratiques sur l'économie domestique, le jardinage, etc., les règles de savoir-faire. Ce qui est important, enfin moi, que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait des œuvres de trois femmes médecins qui sont très importantes dans leur propre pays. L'américaine Mary Wood Allen, « Ce que toute jeune fille devrait savoir ». Elle a obtenu son diplôme de médecin en 1875. Son ouvrage est divisé en trois parties, « La santé, le corps et la sexualité » et le dernier « Vers le mariage ». Et j'ai beaucoup aimé sa conclusion « Soyez bonne pour vous-même ». Vous trouvez ça très joli, hein? En Italie, Gina Lombroso Ferrero, qui est très connue, médecin vulgarisateur, scientifique, la femme aux prises avec la vie. Et puis, cette autrice que j'ai découverte il y a peu de temps, Josefa Loteco. Alors, elle n'est pas liée directement aux femmes, c'est un ouvrage sur la fatigue. Elle est polonaise. Elle s'est intéressée à la physiologie du travail. Elle a passé son doctorat en médecine en France et elle fut la première femme a donné des cours au Collège de France. Donc, trois femmes remarquables, trois médecins remarquables dans cette section. Et nous trouvons également six autrices de manuels scolaires ou pratiques. Alors, les voyageuses, bon, on trouve bien sûr tous les grands classiques de la littérature de voyage du 19e siècle, surtout. Alors, j'ai envie de parler surtout d'une, son histoire est assez curieuse. Donc, c'est Moana au voyage sentimental chez les Maoris et les Peaux-Rouges des îles. Publié dans les documents bleus de Gallimard en 1923. Donc ce récit de voyage est présenté sous forme de notes de journal datées juin 1912 à mai 1913. On découvre à la lecture de son récit cette voyageuse mystérieuse. Elle est française d'origine suisse, diplômée d'un collège d'agriculture en Angleterre. Son idée était de partir au Canada, m'y occuper d'agriculture ou plutôt d'élevage, écrit-elle. J'espérais rencontrer là-bas une jeune fille ayant les mêmes goûts que moi et lui proposer de nous associer. C'était un rêve, naturellement. Elle poursuit son voyage chez les Peaux-Rouges, donc du Canada, puis à Tahiti, où elle se rend donc à bord du Moana. Elle se laisse guider par son goût de la nature, de la marche, de la pêche. Elle adore pêcher, des marchés. Et elle voyage avec un sac à dos, dans un minimum de confort. Elle est parfois hébergée grâce à des recommandations familiales. Le père était diplomate. Mais c'est vraiment une baroudeuse du début du XXe siècle et qui m'a beaucoup plu. Il y a le voyage aussi, la croisière de Perlette, qui est une jolie histoire. Marthe Houllier donc, a fait l'école du Louvre et des études de lettres à la Sorbonne. Et donc, elle était le matelot du bateau et Hermine de Saussure était la capitaine du bateau. Deux femmes plutôt intellectuelles. Hermine de Saussure, c'est la future mère de Delphine Sering. Donc toutes les deux, voilà. Elles font ce voyage dans la mer Égée, faisant suite à leurs études de grec. Enfin bon, deux femmes cultivées, avec des photos en noir et blanc. Et puis, alors, André Martignon, donc Montagne, qui vient d'être réédité, enfin, il y a peu de temps. C'est une sorte de guide du promeneur en montagne, ici les Pyrénées, sous la conduite de trois jeunes grimpeurs expérimentés. Et à la fin de l'ouvrage, on trouve un index des lieux cités. Pour ceux qui aiment les Pyrénées, c'est un livre qui peut être intéressant. Alors, les livres pour la jeunesse, donc on retrouve justement Madeleine de Genestou, et puis tous les ouvrages voilà, de la littérature étrangère. Des poètes, donc peu de poètes. Louise Seffer, elle avait été mise en valeur par Rimbaud, qui avait remarqué ses poèmes. Et il en parlait avec son professeur. Ils sont très beaux, ces poèmes. Et Anna de Noailles, donc, qui est très présente. Lire les biographes et les mémorialistes, il n'y a pas grand-chose. Voilà, les autobiographes, dont de nombreuses vies d'artistes et d'écrivaines qui ont raconté leurs souvenirs. Il y a le journal de Marie Barkisseff, que j'ai découvert ici. puis les biographes, cette biographie de Madame Curie par sa fille Ève, enfin qui a eu énormément de succès. Voilà. Oui, il y a toutes les filles, les filles ou les sœurs ou les hein, des grands écrivains. Oui. Ah, il y a aussi Judith Cladel qui a écrit une biographie sur Auguste Rodin et qui a participé à la création du musée. Merci. Écoutez, je vous remercie de m'avoir invité. Merci.
Est-ce qu'on rencontre beaucoup de Montbourgeois,
quoi ? Il y a des études qui sont faites, justement, j'ai assisté à une, au mois de mars, là, une conférence, une chercheuse à l'école des hautes études qui travaille là, sur les ouvrières qui ont écrit, qui étaient écrivaines, hein, et elle avait comptabilisé une centaine d'ouvrières. Et c'est vrai que je l'ai croisé aussi, j'ai une garde-barrière, il y a un certain nombre de femmes,
et surtout aussi.
Des couturières.
Il y a une que tu as citée, mais très rapidement, dans le catalogue de 62, qui s'appelle Louise Le Neveu, avec un X, auquel je me suis intéressée parce que c'est la mère d'Henri Le Neveu, qui est un militant ouvrier important, qui a été inscrit à la bibliothèque ici, mais il a assez vite disparu. Et après, en 1871, il a participé à la création de la bibliothèque du 14e. Et Louise Le Neveu, elle a été orpheline à 7 ans. On la retrouve mariée à 19 ans avec un professeur d'écriture. À l'époque, un professeur d'écriture, c'était un professeur de calligraphie. Et elle se marie en 1816, le jour où le duc de Guise se marie. Et elle a été choisie par le curé de Saint-Sulpice. Dans les 11 arrondissements, une orpheline a été élue pour toucher 1200 francs. En dot le jour de ce mariage. Et le mariage est décrit dans la presse. Elle se marie à l'hôtel de ville. Donc les 11 couples sont là. Et le lendemain, ils vont assister au mariage du de Guise à Notre-Dame. Alors, elle est émancipée quand elle a 19 ans. Elle a un subrogé tuteur qui est un instituteur. Mais je ne sais pas comment. Elle devient éditrice. Et on trouve des livres d'un certain Pierre Boitard qui écrit des livres sur le jardinage et qui veut créer une encyclopédie du jardinage et de l'agriculture. Et elle est éditrice et elle se met à écrire des livres. Donc là, elle écrit une nouvelle qui s'appelle Le Chevrier dans ce recueil. Et elle explique qu'elle veut transmettre beaucoup de sciences naturelles. Elle écrit sur la nature, elle écrit sur les fleurs, elle écrit sur les plantes. Et pour l'instant, je ne sais pas comment elle est passée de dentelière à éditrice. Elle est veuve assez tôt. Elle est née à Montluçon. Son père est perruquier et on le retrouve à Rion où il est employé du district. Il meurt à l'hôpital militaire de Lille où il est employé de l'hôpital d'une fièvre putride. Et sa mère est dentelière. Et donc, elle a un fils, enfin, elle perd un enfant, et elle a Henri Le Neveu qui va devenir vraiment un militant politique. C'est un typographe, il participe à l'imprimerie, et enfin, à l'histoire de l'imprimerie, aux problèmes de tarifs, aux problèmes de prud'homme, aux problèmes de l'apprentissage. Et il va créer ce qu'on appelle une collection éditoriale et ça s'appelle la bibliothèque utile. Et donc, il essaye de créer une encyclopédie dont il y a un certain nombre de volumes là-haut et un catalogue. Alors, il se moque un peu de ce qu'écrit sa mère, mais en fait, il fait un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il devient éditeur pour... Alors, ce qu'il écrit est beaucoup plus sérieux. Elle essaye de créer de la distraction. Lui, les livres de la bibliothèque utile, c'est des livres assez difficiles à lire, mais qui sont destinés aux ouvriers. Louise Le Neveu, elle est morte, je pense, avant 1870. Et je pense qu'elle a connu la bibliothèque.
Dans les noms qui sont apparus, à un moment, j'ai vu, il y avait Jeanne Dulafoy. On a une conférence sur elle, sur le site de la BAI. Ce qui est dommage, c'est qu'en fait, dans les ouvrages ne sont jamais préfacé, il n'y a jamais de présentation d'auteur ou d'autrice. Et effectivement, il faut aller les chercher ailleurs. Ouais. Mais il y a quand même 65 autrices hein, qui n'ont pas de, de date, ça veut dire que j'ai pas du tout d'informations sur elle. Donc il y a un travail de repérage, de recherche à faire dans les archives. Parce que la Société des gens de lettres, si on n'a pas les dates, c'est qu'elles ne sont pas référencées à la Société des gens de lettres. Donc il faut vraiment qu'il y ait un travail de fond de fait.